Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, François Claus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un autre voyage, celui dans l'actualité. Nous irons, première étape, à Beyrouth, bien évidemment, accueilli en sauveur dans une ville dévastée par une foule pleine de rage. Emmanuel Macron, vous l'entendrez, premier chef d'État étranger à venir au chevet de Beyrouth, adresse un message autant politique qu'humanitaire. Nous serons dès 18h15 avec le député Boris Vallaud, natif de Beyrouth. 18h30, deux très grandes voix du Proche-Orient. Frédéric Ancel et Ishak Diwan nous expliqueront comment ce pays, dont le système politique il y a 15 ans garantissait la paix, et a sombré non pas au bord, mais maintenant au fond du gouffre. Toutes les questions que vous vous posez sur le Liban, le 39-21 est ouvert pour vous. Et puis à 19h15, alors que ce soir 45 départements sont en alerte orange, comment repenser notre ville, notre habitat, pour résister au mieux à ces pics de chaleur de plus en plus fréquents? Nous serons avec l'architecte Éric Rollet. Vous avez le sommaire, mais d'abord place aux news. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Il est 18h sur
Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Aidez-nous. Vous êtes le seul espoir, s'il vous plaît, monsieur.
Non.
L'appel quasiment désespéré des habitants de Beyrouth devant Emmanuel Macron. Ils attendent que la visite du président français provoque le changement politique dans le pays après la catastrophe qui a fait 137 morts. Nous serons sur place dans un instant avec notre envoyé spécial.
Un simple contrôle routier de nuit dans une rue du Mans et un policier qui trouve la mort à cause d'un chauffard alcoolisé.
Elle est allée vers lui, elle lui a dit « Pourquoi t'es pas descendu ?» Apparemment, il aurait dit « Désolé » et elle a dit « Désolé, c'est pas assez ». Elle était très bouleversée.
Et l'émotion est très vive au sein de la police. L'individu, lui, a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite.
Dans ce journal également, les gestes de prudence avant la canicule et sur fond d'épidémie de coronavirus. Et puis, le dernier hommage ce matin à Gisèle Halimi.
C'était l'hommage à une femme exceptionnelle, à une héroïne française. Je pense qu'elle nous inspire et qu'elle nous oblige. Elle nous oblige à continuer.
L'ancienne avocate, figure du mouvement féministe des années 70, a été inhumée ce matin au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La bourse de Paris termine en baisse ce soir de 0,93% à 4887 points.
Et puis bien sûr, la tendance météo, c'est important puisque 45 départements sont ce soir placés en vigilance orange canicule. Bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Info principale, oui, c'est bien sûr cet épisode caniculaire qui va nous concerner quelques jours, 5 à 7 jours, qui va débuter demain matin. 45, vous l'avez dit, des Hauts-de-France jusqu'au Midi-Pyrénées. Alors comptez 35 à 40 degrés en général, on est vraiment dans l'intérieur des terres. On peut dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest. Et puis surtout, les nuits qui seront marquées par l'absence de fraîcheur.
Et vous nous en direz plus pour la météo complète à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
François Claus, Lionel Gougelot.
C'est donc pour exprimer ce qu'il appelle une solidarité fraternelle envers le Liban, mais aussi la nécessité de rénover le système politique du pays, qu'Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth ce matin. Le président de la République s'est rendu d'abord sur les lieux de l'explosion qui a fait 137 morts et 5000 blessés selon un dernier bilan. Et il est notamment allé saluer les sauveteurs français dépêchés sur place et qui s'activent depuis hier pour fouiller les décombres. Ça n'est pas anodin, Emmanuel Macron est le premier chef d'État étranger à se rendre au chevet de ce Liban meurtri. Est-ce que vous avez pu constater, Johanna Sabach, vous êtes notre envoyée spéciale, c'est qu'il y a vis-à-vis du président français une attente très forte du peuple libanais?
Oui, dès sa sortie dans une rue dévastée de Beyrouth, Emmanuel Macron a été pris à partie par la foule, extrêmement en colère. Les manifestants criaient « Révolution » ou encore « Le peuple veut la fin du régime » et imploraient le président français.
Aidez-nous, vous êtes le seul espoir, s'il vous plaît, monsieur.
Non, mais c'est nous qui travaillons à vous, avec les ONG, sous la supervision des Nations Unies.
Sous le chapitre.
La foule a ensuite applaudi Emmanuel Macron. La bousculade s'est transformée en bain de foule et le président a pris le temps de parler à chacun. Mais Michel, 26 ans, reste dubitatif face à cette promesse d'aide internationale.
On veut juste une vie décente dans ce pays. S'ils peuvent nous y aider, c'est merveilleux. S'ils ne peuvent pas, on ne veut pas de vaines promesses. On ne veut pas qu'ils soutiennent un parti, qu'ils remplacent juste un parti par un autre qui serait tout aussi corrompu.
Car ici, c'est bien ça qui est dénoncé le plus par la population. population. Une corruption qui toucherait, selon les habitants, tous les partis et dont les Libanais ne veulent plus.
Merci Johanna Chabas. Dès son arrivée, le président français a affirmé qu'il souhaitait organiser l'aide internationale en faveur du Liban. Mais à chaque prise de parole, Emmanuel Macron a bien précisé que cela ne serait possible que si les dirigeants libanais acceptent de changer de système politique.
Au-delà de l'explosion, et on l'a bien senti ce matin dans la colère qu'il y a dans la rue, il y a aujourd'hui une crise politique, morale, économique et financière qui dure depuis plusieurs années. Et celle-ci implique des initiatives politiques fortes pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence, pour mener les réformes que nous connaissons et qui depuis deux ans, dans le cadre d'ailleurs des programmes CEDRE, ont été portés. Lutte contre la corruption, réforme du secteur de l'énergie et de l'électricité pour lutter contre les coupures que vivent aujourd'hui les Libanaises et les Libanais. Lutte aussi contre l'opacité du système bancaire, enclenchement du programme FMI et poursuite de l'agenda CEDRE. Il appartient aux dirigeants aujourd'hui en place, par un peuple souverain, de mettre en œuvre ces décisions. Mais elles sont extraordinairement urgentes et elles doivent constituer pour moi un contrat politique nouveau qui est indispensable.
Alors comment la France peut jouer sur ce nouveau contrat, ce nouveau pacte libanais qu'annonce Emmanuel Macron ? Nous serons dans un instant avec Boris Vallaud, député né à Beyrouth et vice-président du groupe des amitiés franco-libanaises. Pendant ce temps-là, dans Beyrouth, les 300 000 habitants sans-abri du fait de l'explosion, s'organisent comme ils peuvent et la prise en charge des blessés dans les hôpitaux est toujours aussi chaotique.
Et c'est même dans les hôpitaux, François, qui ont été épargnés par l'explosion, que l'on se rend compte en fait du désarroi et du chaos dans lequel est plongée la population. Écoutez, le docteur Ismail Asnounet, il est secrétaire national du Secours populaire français et actuellement en mission à Beyrouth.
Il y a toujours quelques blessés qui arrivent, mais par rapport à hier, ça a diminué, le flux a diminué beaucoup et là maintenant on arrive à mieux voir les choses et à maîtriser. Mais les médicaments sont chers par rapport à la population. Et il y a le gros problème, c'est qu'il y a pas mal de matériel et des médicaments qui étaient stockés sur le port et qui ont été détruits. Si on va résumer les choses, il y a un flux très très important qui a saturé les hôpitaux, plus que 4 ou 5 000 blessés. Et la quasi-majorité des hôpitaux, ils ont utilisé leur stock pour faire le nécessaire. Et maintenant, grâce à l'aide humanitaire internationale, on commence à avoir un peu de matériel, etc. Mais il faut réfléchir dans les jours à venir comment on peut faire face à cette situation.
Le docteur Ismail Asnounet, secrétaire national du Secours populaire français, interrogé par Damien Mestre. Et puis cette information qui paraît incroyable, rapportée par certains médias sur place. Un travailleur du port de Beyrouth a été retrouvé en mer 30 heures après l'explosion, grièvement blessé mais vivant. Il avait été projeté par la déflagration. Il est donc resté tout ce temps dans l'eau avant d'être secouru.
Europe 1, 18h07, la suite du journal Lionel Gougelot, François Claus.
Un policier de la brigade de nuit tué dans l'exercice de ses fonctions la nuit dernière au Mans, victime d'un chauffard alcoolisé.
C'est au cours d'un simple contrôle que le fonctionnaire a été traîné par le véhicule et projeté sur un mur. Le policier est pratiquement mort sur le coup, Charles Guyard.
Oui, et nombreux sont les habitants de cette artère du sud-ouest du Mans à avoir été brusquement réveillés vers 4h du matin, comme Julie.
J'ai entendu un crispement de pneus et ensuite un gros boom et je me suis levée, j'ai ouvert les volets. Voilà.
De sa fenêtre, la jeune femme peut voir une Mercedes noire, l'arrière encastré dans la porte du garage d'en face après un violent tête-à-queue. 30 mètres plus haut dans la rue, au pied d'un petit muret, les secours s'activent. De son balcon, Benjamin assiste à la scène.
Il y avait déjà les pompiers. Je les ai vus fumasser, donc je pense qu'il n'était pas mort, je ne sais pas. Et non, une policière qui pleurait, ça devait être à mon avis sa coéquipière, je pense. J'ai entendu, oui, un policier qui disait « policier au sol ».
Le policier au sol, c'est Éric Manroy. Sa tête vient de heurter violemment le muret où il aurait été projeté après avoir été traîné sur plusieurs mètres par la voiture qu'il était en train de contrôler. Après l'accident, le conducteur a lui tenté de s'enfuir à pied, escaladant le portail d'un garage automobile voisin où il a finalement été interpellé, comme le raconte Tony.
Il ne voulait pas se laisser faire au départ. Mais ils l'ont tiré par les pieds, face contre terre, main dans le dos, menottes. Quoi.
À ce moment-là, l'une des collègues du brigadier décédé s'est approchée du suspect.
Elle est allée vers lui. Elle lui a dit « Pourquoi t'es pas descendu ?» Apparemment, il aurait dit « Désolé ». Et elle a dit « Désolé, c'est pas assez ». Elle était très bouleversée.
Âgé de 26 ans, le conducteur a déjà été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ivresse et outrage et rébellion. Quant à Éric Manroy, originaire d'Alençon, il avait 43 ans, il était marié et père de trois enfants.
Charles Guyard, l'un des correspondants d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Ce soir, à noter également cette information, la mise en examen de l'éducateur qui accompagnait l'enfant disparu fin juillet dans un lac d'Indre-et-Loire. Le jeune jeune homme sera poursuivi pour homicide involontaire et violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité. Trois jours avant le drame, l'accès au plan d'eau avait été interdit faute de maître-nageur pour surveiller la baignade.
Alors on la sent déjà là à portée de main sur la terrasse d'Europe 1 notamment, et Marlène Duret nous le disait dans la météo il y a quelques secondes, la canicule, 45 départements ce soir ont été placés en vigilance orange.
Ouais, alors tout le monde a ses ventilateurs, hein, avec des températures qui dépasseront les 40 degrés dans certaines régions et sur fond de risque épidémique au Covid-19, Virginie Salmen. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques bons gestes, de bon sens également.
Oui, canicule plus coronavirus, alors il va falloir manier le brumisateur avec précision. La règle numéro 1, c'est ne surtout pas mouiller son masque en se rafraîchissant. Si votre masque est humide, il n'est plus efficace, il faudra donc en changer. Autre règle d'or, justement pour les ventilateurs, on peut l'utiliser sans problème si on est seul, donc une personne devant un ventilateur, oui, mais dès que quelqu'un entre dans la pièce, on l'arrête. Il ne faut surtout jamais mettre des ventilateurs dans un espace collectif fermé. Si jamais il y a un malade asymptomatique, des gouttelettes peuvent se retrouver projetées dans toute la pièce. Donc surtout pas de ventilateur au bureau, en open space. Vous allez me demander, et la climatisation ? Eh bien, il n'y a pas de contre-indication selon le ministère de la Santé, à condition d'avoir des filtres performants, c'est-à-dire avec la norme HEPA, donc norme haute efficacité, et puis si l'installation est entretenue régulièrement, sinon mieux vaut s'en passer. Même chose pour la VMC, la ventilation mécanique. On peut la laisser, mais si vous avez un programme de recyclage de l'air, en revanche, il vaut mieux le couper.
Merci Virginie Salmen, c'est complet. J'ajoute que dans l'optique de ces fortes chaleurs, la SNCF activera demain un plan particulier qui prévoit une surveillance renforcée des matériels en pleine canicule. Sachez que la température des rails peut dépasser les 55 degrés et même parfois 70 degrés avec le risque de dilatation de l'acier et de déformation des voies bien sûr. Des trains pourraient être ralentis et dans les rames, si la clim ne fonctionne pas, eh bien le train ne partira pas.
Le dernier hommage peut-être avant un hommage national à Gisèle Halimi ce matin au cimetière du Père Lachaise à Paris.
C'est là en effet que la célèbre avocate, militante du droit des femmes décédée la semaine dernière, a été inhumée, entourée de ses proches et de nombreux amis, des militantes de la cause féminine également et bien sûr des avocats. Parmi les personnes présentes, Annick Cogent, journaliste au Monde, qui s'apprête à sortir justement dans quelques jours un livre coécrit avec Gisèle Halimi qui relate ses grands combats.
C'était l'hommage à une femme exceptionnelle, à une héroïne française. Nous, petites filles, nous n'avions pas beaucoup d'héroïnes dans nos livres d'enfants, il n'y en avait pas. Et là, on en a une formidable, parce que c'est l'image de la combativité, de l'absence totale de résignation. Elle a gagné de grandes batailles, on a parlé de l'avortement, la loi sur le viol, etc. Elle a défendu des gens vaillamment, en défendant des principes, des valeurs, parce qu'elle avait cette caractéristique, en utilisant son métier, le droit de parler et de s'adresser à l'opinion publique et de faire bouger les choses. Quel culot et quelle ambition, mais c'était ça qu'elle voulait faire. La relire, la réécouter, je pense qu'elle nous inspire et ouais, je vous disais qu'elle nous oblige, elle nous oblige à continuer.
Annick Cogent avec Caroline Baudry.
Sur Twitter et Facebook, Donald Trump sanctionné pour... une fake news.
Oui, effectivement, ça ressemble à un vrai camouflet hein, pour le chef de la Maison Blanche, parce qu'après la suspension de ce compte Twitter il y a quelques jours, eh bien c'est Facebook, figurez-vous, qui fait retirer une vidéo du président américain pour cause, je cite, de désinformation dangereuse autour de la maladie du Covid, le Covid-19. Clément Le Saffre.
Oui, et c'est historique. Hein. C'est la première fois que Facebook censure Donald Trump, mis sous pression pour son laxisme en matière de fake news. Le réseau social n'a pas pris de pincette. Il a supprimé sans sommation une vidéo sur le compte de campagne de Donald Trump. En cause, ce passage, issu d'une interview du président sur la chaîne Fox News.
Les enfants sont quasiment, et je dirais même presque totalement, immunisés contre le Covid. Leur système immunitaire est beaucoup plus fort que le nôtre. Ils n'ont pas de problème avec cette maladie.
Sauf que c'est faux. Certes, les enfants représentent une très faible proportion des hospitalisations pour le Covid-19, mais ils ne sont pas immunisés. Pour autant, des études ont montré qu'ils peuvent attraper et transmettre la maladie. Facebook a donc réagi, imité par Twitter, plus coutumier des escarmouches avec le président américain. Depuis le mois de mai, Twitter a signalé plusieurs messages de Donald Trump, affirmations trompeuses, apologie de la violence, vidéos tronquées. Faites votre choix. Cette fois, le compte officiel de la campagne a été empêché de tweeter le temps que la vidéo soit retirée. La porte-parole du président candidat a eu beau soutenir que Donald Trump ne faisait qu'énoncer des faits, la vidéo litigieuse a bel et bien été retirée.
Merci Clément Le Saffre, pour qui les réseaux sociaux et les nouvelles technologies en règle générale n'ont plus aucun secret.
Et oui, c'est notre spécialiste, comme vous êtes le spécialiste de l'actualité Lionel, et on vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'actualité. Mais avant cela, un mot sur l'information principale. Elle est en studio, Marlène Duret et la météo dans un instant. C'est confirmé, Marlène. Voilà, la vague de chaleur, elle est là et elle est plutôt appelée à durer.
On parle même de canicule, hein, parce que température élevée aussi bien le jour que la nuit, sur plusieurs jours consécutifs. Hein.
C'est un épisode caniculaire, pas un pic.
Exactement, ni une vague de chaleur. Les températures de cette nuit vont continuer à monter, mais on va rester encore sous les seuils à l'est du pays. La nuit sera encore agréable à l'est. Le pic de chaleur du sud-ouest au Pays de la Loire demain va se prolonger par un épisode caniculaire sur une grande partie de la France. 45 départements, donc en vigilance orange. Je ne vais pas tous vous les donner, mais disons de la frontière belge au Midi-Pyrénées, en passant par le centre, une partie de la Nouvelle-Aquitaine, de la Bourgogne, de la Champagne-Ardenne, de la Normandie et des Pays de la Loire, au plus chaud de la journée. Il fera 35 à 40 degrés, jusqu'à 41 voire 42 très localement sur le quart sud-ouest. D'ailleurs dans le Gers, à Auch, on pourrait flirter avec le record de 2003 qui était de 41 degrés. Et puis pour les régions situées en bord de mer et les régions montagneuses, comptez un petit peu moins, 28 à 34. La mini, on la trouvera du côté de Brest. 27, ça vous donne une idée. Ce qu'il faut retenir, François, c'est que l'air chaud sur le quart sud-ouest va migrer vers le nord et l'est du pays ce week-end. En bord de mer, on sera davantage protégé. En revanche, dans l'intérieur des terres, ce sera la fournaise. Et pour plusieurs jours, 5 à 7 jours, les nuits seront lourdes. Si on atteint dans les grandes villes des 22, 23, 24, ça commencera à devenir éprouvant pour nos organismes. Et puis j'attire enfin votre attention sur les Hauts-de-France. On prévoit jusqu'à 5 jours consécutifs à plus de 35 degrés. À Lille, par exemple, un joli 38 attendu ce samedi. Si on les atteint, ça fera deux fois cette année. Ce sera une première.
Et c'est la confirmation qu'il y a un réchauffement endémique de notre planète. Également, on vous retrouve dans un quart d'heure pour aller à la plage quand même. On pourra se rafraîchir un petit peu avec la météo des plages. Merci Marlène.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite avec vous, François Claus, et votre invité, François.
Nous serons avec Boris Vallaud, député des Landes, né à Beyrouth, vice-président du groupe d'amitié franco-libanaise et qui a suivi évidemment avec le cœur meurtri ce qui s'est passé ces dernières heures. Et nous commenterons notamment avec lui l'arrivée, vous l'avez entendu, mouvementée, pleine d'espoir et pleine de rage aussi du président Macron.
18h18, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, François Claus, et votre invité. Vous recevez ce jeudi Boris Vallaud, député des Landes et vice-président du groupe d'amitié franco-libanais à l'Assemblée nationale.
Bonsoir Boris Vallaud.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Des images très fortes cet après-midi à Beyrouth lorsque l'avion présidentiel a atterri. Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger à venir au chevet de Beyrouth, dévasté. On a vu une foule pleine de rage, très en colère et appelant la France à la rescousse. Un président de la République comme un sauveur. Vous pensez que les Libanais attendent trop de la France ?
Écoutez, moi j'ai vu, après les images dramatiques d'hier, j'ai vu un peuple en colère et un peuple qui demande de l'aide et qui le demande au président de la République française, président d'un pays qui est un pays ami du Liban. Donc il y a aussi de l'espérance dans ces cris de colère. Et la France peut évidemment beaucoup pour le Liban, a déjà fait dans l'histoire toutes ces dernières années beaucoup pour le Liban, mais les Libanais ne voient pas en acte comment leur vie change. Et je crois que l'enjeu est celui-là, et c'est ce qu'ils ont dit aussi au président de la République française.
Alors c'est une marge de manœuvre très étroite pour le président de la République, à la fois tenter de mettre tout son poids pour répondre à cette aspiration de la rue que vous évoquiez, et en même temps ne pas venir bousculer un équilibre si fragile au Liban, équilibre à la fois confessionnel, politique et avec les tensions des pays aux alentours également.
Écoutez, oui, vous connaissez la formule, les idées simples et l'Orient compliqué. Oui, la situation est compliquée, mais il y a d'abord une urgence, vous l'avez vu, vous en êtes témoin, vous savez quelle est la situation pour 300 000 Béroutins qui n'ont plus où se loger, vous savez la situation des hôpitaux qui sont saturés parce qu'ils ont accueilli des milliers de blessés, certains très graves. L'urgence, c'est de répondre à tout cela et aux nécessités de la vie quotidienne des Béroutins et des Béroutines. Ça, c'est effectivement l'urgence. Et puis, il faut à la fois être exigeant avec le gouvernement libanais, j'allais dire même à certains égards dur, tout en disant aux Libanais, eh bien, écoutez, votre avenir politique, vous avez dit dans les rues depuis des mois et des mois ce que vous voulez qu'il soit. Vous n'en pouvez plus d'un régime corrompu, vous n'en pouvez plus de vivre si mal, d'une livre libanaise qui ne vaut plus rien, d'un système confessionnel qui étouffe, d'être au fond, au carrefour de tensions régionales qui vous empêchent de vivre. Et c'est vrai que cette explosion, elle est presque une synthèse malheureuse de tout ça. Et, Et on partage évidemment cette souffrance.
Alors, Emmanuel Macron s'est mis en quelque sorte, s'est placé d'entrée en atterrissant comme une tête de pont potentielle de l'ensemble de cette aide humanitaire absolument indispensable que vous évoquiez. Vous pensez qu'il est possible, sous l'égide de l'ONU et avec l'aide d'autres pays, d'avoir un système qui permette de la contrôler, de l'adresser directement aux Libanais dans la situation d'urgence dans laquelle ils sont?
Oui, je crois que c'est possible. Malheureusement, les catastrophes ne sont pas une première et l'aide internationale est capable de s'organiser. Que la France puisse réunir une conférence des donateurs pour Beyrouth, qu'elle prenne le leadership de l'aide qui doit être apportée dans l'urgence aux Beyrouthains, c'est tout à fait possible. Les ONG sont sur place, elles se mobilisent du monde entier et beaucoup d'aides continuent de converger vers Beyrouth. Et il faut en effet que toute cette aide, eh bien, elle se traduise en actes dans la vie quotidienne des Libanais aujourd'hui. Parce que vous en avez vu les images, ce qui était le grenier de Beyrouth et du Liban, ces grands silos sur le port de Beyrouth ont été détruits. Eh bien, la question qui se pose, elle est, j'allais dire, immédiate. C'est est-ce qu'il va y avoir du pain? Est-ce que les gens pourront manger? Et donc c'est à ces urgences-là qu'il faut évidemment répondre.
Alors évidemment, ça c'est un véritable casse-tête, puisque le port de Beyrouth n'est plus accessible. Il n'y a quasiment pas d'autres ports en eau profonde qui permettraient à des navires transportant ne serait-ce que la farine pour faire du pain et donner à manger aux Libanais, qui puissent amerrir au Liban.
Oui, absolument. Et c'est pour ça que, évidemment, c'est un véritable pont humanitaire, avec la logistique que cela implique, qu'il faut déployer. Mais vous voyez bien qu'on est dans une course contre la montre et que l'exaspération de la rue libanaise est à son comble. Ils n'en peuvent plus de souffrir, ils n'en peuvent plus de l'incurie de leurs représentants. Et souvenez-vous de ces manifestations et à la fois de la désespérance et de l'espérance dont elles étaient animées. Mais bien voilà, là,
c'était, il faut le rappeler, c'était avant l'épidémie de Covid. Nous étions au mois de janvier, au mois de février. Il y en a eu également dans les années précédentes, depuis que l'équilibre confessionnel a basculé en 2006 en faveur du Hezbollah qui aujourd'hui tient le pays. Il y en a eu après le déconfinement. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui, Boris Vallaud, que cette rage, cette colère se transforme à un moment ou à un autre en violence, notamment avec le spectre de la famine qui pointe aujourd'hui sur Beyrouth?
Eh bien évidemment, le pire n'est heureusement jamais certain et les Libanaises et les Libanais savent le prix qu'ils ont payé dans les 20 ans de guerre civile. Ils ne le veulent plus, mais vous voyez bien la situation dans laquelle ils sont et on est sur un fil et nous devons participer, nous Français, mais toutes les forces mobilisées aujourd'hui internationalement, pour que eh bien, les choses tombent du bon côté. Et ça signifie une mobilisation sans faille, urgente, au bénéfice de cela. Surtout que l'alternative, ce ne soit pas la violence et la faim.
Le Liban est situé dans une zone évidemment extrêmement fragile. On parlait de la difficulté de l'approvisionnement par mer. Est-ce que vous pensez que les tensions régionales pourraient se mettre quelque part, un peu entre parenthèses? On pense évidemment à l'Iran et à l'Arabie saoudite, l'un qui soutient les sunnites, l'autre les chiites du Liban, et qui ont fait du Liban leur terre d'affrontement, puissent mettre leurs différends, leur opposition entre parenthèses, pour aider à ce que cette aide soit efficace dans les prochaines heures?
Mais écoutez, c'est, j'allais dire, un impératif moral. C'est insupportable de faire vivre aux Libanaises et aux Libanais cet étau qui n'en finit pas de se resserrer depuis des années et des années. Oui, je veux dire, c'est l'intelligence qui doit gagner, c'est la fraternité qui doit gagner, c'est l'humanité. Et tout cela, les Libanaises et les Libanais en sont demandeurs, quelle que soit leur confession. Voilà, j'allais dire, ils sont dans une forme de communauté de souffrance aujourd'hui et ils veulent s'en sortir. Et si la France peut les y aider, évidemment, je crois que c'est ce sera notre honneur.
On a vu également Boris Vallaud dans cette résilience libanaise portée par 15 ans de guerre civile, par les bombardements, on s'en souvient, de 2006 sur les quartiers chiites, par l'aviation israélienne. Il y a eu immédiatement, malgré le désastre, des scènes de solidarité absolument exceptionnelles. Le peuple libanais, c'est aussi cela.
C'était évidemment aussi cela. C'est un peuple d'une grande générosité. Vraiment, c'est un peuple d'une incroyable générosité. Et vous savez, la générosité, elle se mesure quand vous donnez que vous-même, vous avez peu. Et c'est, là aussi, je le vois dans les rues de Beyrouth, les images qui passent en boucle, c'est cette solidarité qui commence à nouveau à s'exprimer. Mais vous comprenez, c'est difficile d'être, j'allais dire, solidaire quand on n'a rien. Il faut qu'on soit nous-mêmes, en France, solidaires avec les Libanais dans cette exigence d'un avenir meilleur. Vous savez, moi, souvent, quand j'ai vu, après, vous avez raison, la crise économique, sociale, vous savez ce qu'est le régime politique qui est totalement vérolé, quand vous avez vu le Covid s'abattre avec déjà des hôpitaux qui étaient saturés, des gens qui, je pense par exemple aux professeurs qui n'étaient plus payés ou dont les salaires ne valaient plus rien, qui comptaient ce qu'ils mangeaient, voir arriver cette explosion-là, vous dites mais quand est-ce que ces Libanais ont droit à un peu de répit dans cette litanie de malheur et de souffrance.
Voilà, oui, c'est
effectivement... je vous le dis avec cœur parce que voilà, c'est un pays qui m'est cher et des Libanaises et des Libanais qui me sont très chers.
Et on l'entend, votre émotion hier soir à la même heure sur l'antenne d'Europe 1, nous avions ce grand photographe de l'agence Sigma, Maher Attar, qui a vécu toutes les années de guerre civile, qui s'est exilé pendant 25 ans, qui est revenu dans son pays et qui en larmes nous disait j'ai jamais vu ça. On comprend l'urgence et le besoin de lancer les messages comme celui que vous venez de formuler ce soir sur Europe 1. Et on vous en remercie. Merci d'avoir été avec
merci
nous,
à vous. Merci de votre
Boris
Vallaud,
d'avoir été en direct ce soir sur notre antenne.
Europe 1. Et la suite dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Le rappel des titres et le débat des grandes voix, François.
Oui, on va rester au Liban parce qu'on a beaucoup de questions des auditeurs au 39-21 qui veulent essayer de comprendre pourquoi ce système politique libanais qui a tenu la paix, tout d'un coup, c'est autant dévoyé. On va essayer de vous donner des clés avec deux des grands spécialistes du Proche-Orient qui répondront absolument à toutes vos questions. Le 39-21 est ouvert pour vous.
18h29, votre grand journal du soir avec vous, François Claus.
Et avec Lionel Gougenot qui est revenu dans ce studio pour le rappel des grands titres de l'actualité.
Emmanuel Macron exprime à Beyrouth la solidarité fraternelle de la France après la catastrophe qui a endeuillé la capitale libanaise. Le président français dit vouloir être en première ligne pour organiser l'aide internationale, mais exhorte les dirigeants libanais à changer de système et à mener les réformes nécessaires. Gérald Darmanin rend hommage aux policiers morts la nuit dernière au Mans, dans la Sarthe. Le fonctionnaire qui intervenait sur un contrôle routier a été percuté par un chauffard alcoolisé, puis traîné sur plusieurs mètres avant d'être projeté contre un mur. Après avoir tenté de prendre la fuite, l'individu a été interpellé. Il est ce soir en garde à vue. Au Havre, un individu armé a fait irruption cet après-midi dans une agence de la Banque Populaire. Il retient actuellement plusieurs personnes à l'intérieur, mais il a laissé sortir un otage il y a quelques minutes. Ses revendications ne sont pas encore clairement connues. Les policiers sont sur place ainsi que la BRI et le RAID. 45 départements placés en alerte canicule orange par Météo France. Ces températures pourraient dépasser 42 degrés en pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, mais aussi Occitanie. Il pourrait y avoir demain des records de chaleur.
Des records de chaleur, et on suivra évidemment ce qui se passe au Havre avec vous tout à l'heure dans le journal de 19h, Lionel Gougelot. Allez, je vous l'avais promis, on va aller à la plage. Là maintenant, on va faire le tour de France des plages. Il fait normalement déjà bon d'aller se baigner en temps normal, mais alors en temps de canicule, Marlène Duré, c'est encore meilleur.
Hein. Oui, il va faire chaud, il va faire beau. La mer sera calme et souvent très belle sur l'ensemble de nos plages. Allez, on va commencer par celle du Nord et de la Manche. Température comprise entre 24 degrés à Perros-Guirec et 32 à Deauville. La température de l'eau a même tendance à remonter, comme ce 21 degrés prévu dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le long de l'Atlantique, vous nagerez dans une eau comprise entre 18 et 23 degrés du nord vers le sud. Sur les serviettes, comptez 34 à La Baule, 37 à Lacanau, mais 29 à Biarritz. Sur la côte basque, ça va bourgeonner un petit peu. Petite brise rafraîchissante en fin de journée. Et oui, le vent va tourner à l'ouest. Pour finir la Méditerranée, l'eau se réchauffe. La température de la mer jusqu'ici était fraîche à cause de la tramontane. Et quand l'eau est fraîche, eh ben ça favorise la formation de nuages bas. Alors pas de grand ciel bleu demain par endroit sur les plages roussillonnaises, vous savez, les fameuses entrées maritimes. On va terminer par la Corse, 29 à 31 degrés à l'ombre. Et pour une brasse coulée, 25-26 degrés. Que du bonheur, j'ai envie de vous dire.
Ben oui, que du bonheur avec vous. Merci Marlène.
Europe 1.
Place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui, François, avec Ishak Diwan, professeur à la chaire socio-économie du monde arabe à Paris Sciences et Lettres, Frédéric Ancel, maître de conférences à Sciences Po Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Et vous pouvez aussi vous poser vos questions et réagir au 39-21.
Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Bonsoir Isaac Diwan.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être ce soir en direct sur Europe 1. Beaucoup d'auditeurs s'interrogent et veulent comprendre, tous émus par la tragédie qui est en train de vivre Beyrouth. Frédéric Ancel, beaucoup ont dit cette explosion sur le port due pour le moment, c'est l'hypothèse qui prévaut, mais elle semble claire, un accident industriel. Son souffle est en train de balayer un système politique corrompu. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Est-ce que vous confirmez cette thèse, Frédéric Ancel?
Oui, je la confirme avec une certaine prudence, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on annonce la fin de ce système confessionnel, constitutionnellement confessionnel, hein, issu du pacte national de 1943. On l'avait annoncé lors de la guerre civile terrible, hein, et très longue de 1975-91, puis lors des accords de Taif qui avaient suivi cette guerre, puis lors de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, et à chaque fois, et puis bien sûr au milieu des années 80, lorsque des millions de Libanais, et notamment la jeunesse libanaise, était descendue dans la rue pour tenter de convaincre l'État de mettre fin, enfin le régime politique, de mettre fin à ce système confessionnel corrompu par définition. Et à chaque fois, on se dit, ça y est. Et le problème, c'est que, par définition, ceux qui sont au pouvoir et qui profitent de ce système, bah, ils n'ont pas tellement envie de le lâcher comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il faut être prudent. Cela dit, le coup porté par cet accident industriel qui, alors vous avez raison, en tout cas c'est aussi mon hypothèse, je pense qu'il s'agit véritablement d'un accident de nature industrielle, mais tout de même lié vraisemblablement à des décisions parfaitement aberrantes en termes de sécurité civile. Je pense que ça peut, vis-à-vis de la population d'une part, mais également des pays pourvoyeurs, donateurs, contributeurs du Liban d'autre part, ça peut quand même créer quelque chose de nouveau, une sorte d'électrochoc. Et je dois dire, pour finir, que Emmanuel Macron, qui a tenu des propos pratiquement révolutionnaires dans leur volontarisme cet après-midi, exprime, je crois, cette volonté et en même temps ce ras-le-bol à la fois de la population libanaise, mais également, je le répète, d'un certain nombre d'États amis du Liban.
Alors écoutez, vous évoquiez à l'instant même, Frédéric Ancel, ces propos d'Emmanuel Macron, et avant de donner la parole à Isaac Diwan, on va les réécouter.
Cette aide, elle sera transparente, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption.
Monsieur le Président, nous avons besoin de votre aide. Nous réclamons une tutelle internationale. C'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays, ils nous ont tués hier.
Alors Isaac Diwan, il est harcelé par la foule Emmanuel Macron cet après-midi, une foule pleine de rage. Il promet que cette aide internationale va être contrôlée parce que le système, de fait, n'est plus capable aujourd'hui de le tenir et de le gérer dans le pays.
Oui, le président Macron fait sa conférence de presse en ce moment. Tous les Libanais l'écoutent plein d'espoir. Le pays se débat dans ce besoin de changement politique qui n'arrive pas à trouver une voie, une issue, et qui est maintenant alimentée par cette colère immense et les espoirs que le président Macron apporte aujourd'hui après ce désastre d'il y a deux jours. Il est clair que les Libanais ont besoin d'une aide humanitaire urgente, mais il est aussi clair qu'ils ne veulent surtout pas que cette aide profite à ce régime politique pour qu'il puisse survivre un peu plus longtemps, éviter les réformes, éviter de confronter les conditions nécessaires du Fonds monétaire pour changer la façon dont le pays est organisé. Et il ne faut surtout pas laisser cette bouffée d'oxygène qui vient réparer le grand malheur du peuple, leur donner le moyen de recréer un clientélisme qui les laisse au pouvoir plus longtemps.
Qui a été, Isaac Diwan, le clientélisme qui a fleuri, qui s'est épanoui sur la reconstruction de Beyrouth post-guerre civile, ces 15 ans de guerre civile qu'évoquait Frédéric Ancel. Nous avons, messieurs, une première question d'un auditeur et on va pouvoir revenir à ce qui est l'essence, je pense, du système libanais. C'est Gérard qui nous appelle du département de l'Allier. Bonsoir Gérard.
Bonsoir François Claus, bonsoir Grandjoie.
Nous écoutons votre question, Gérard.
Eh bien, je crois que Frédéric Ancel a répondu déjà à ma question. Je voulais savoir si le système entre les trois religions chiites, maronites et druzes n'étaient pas la cause principale du blocage actuel de ce pays. Et je crois que Frédéric Cancel y a bien répondu. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que le Liban connaisse maintenant la laïcité.
Ça va être compliqué, mais enfin, c'est une piste. Frédéric Cancel, votre réponse, on rappelle que les accords de Taïf donnaient une partie du pouvoir aux chrétiens maronites, une partie du pouvoir aux musulmans sunnites et une partie du pouvoir, notamment la direction du Parlement, aux musulmans chiites. Un Liban laïque serait la solution et est-ce envisageable ?
Alors, c'est la question centrale. Alors, si je peux me permettre, les accords de Taïf donnait surtout, modifiait effectivement dans le sens en principe d'une certaine rationalisation, modifiait le système, mais en réalité c'était un accord des vainqueurs. Cela s'est fait sous l'égide de l'Arabie Saoudite, mais en réalité le Hezbollah qui a été créé par l'Iran en 1982 et qui aujourd'hui est le seul groupement confessionnel à la fois surarmé et politiquement extrêmement puissant au point qu'il est bien plus puissant que l'État libanais lui-même, n'en a pas tiré les conséquences et aujourd'hui c'est cette mouvance et ce parti qui domine littéralement la vie politique sécuritaire du pays, contre les accords même de Taïf. Maintenant, le système du pacte national établi en 1943, mais en réalité des années 30, il comporte un paradoxe assez amer, c'est que c'est la Troisième République française, la laïque, la centralisée, quelque part l'agnostique, voire l'athée, qui a créé ce bazar. C'est-à-dire qu'on a fait semblant de tenir compte de la structure effectivement très très mosaïque de la société du Levant. À l'époque, c'était à la fois la Syrie et le Liban. Le Liban n'a jamais été indépendant avant 1943. Bien. Et en réalité, il s'agissait de diviser pour mieux régner et de compter sur une minorité très francophile et francophone qui était à l'époque les chrétiens maronites. Bon. Mais à partir des années 70, on a bien vu que ça ne fonctionnait plus et en tout cas, certainement pas au profit de l'ensemble des Libanais, des citoyens libanais, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je conclurai en étant parfaitement d'accord avec la question de votre auditeur. Bien sûr, ce serait l'idéal, mais encore une fois, prudence, parce que ceux qui profitent de ce système-là, par définition,
ne vont pas le lâcher facilement. Ishaq Diwan, vous pensez qu'un Liban laïque, c'est ce qu'il y a derrière cette phrase qu'a employée Emmanuel Macron en arrivant, qu'il est nécessaire de créer un nouveau pacte politique au Liban ?
La majorité de la population a bien vu et comprend très bien maintenant que c'est la seule voie. Il faut dire, pour ajouter à l'explication qui a été donnée, qui est excellente, que le système communautaire est devenu, ne marchait plus à partir de 2011, quand les tensions régionales ont augmenté. Il a fallu que tous ces chefs de guerre se regroupent dans des gouvernements de coalition qui ne pouvaient plus prendre aucune décision et qui donc n'ont pas pu éviter les écueils, aussi bien financiers, monétaires que sécuritaires qui faisaient face au Liban et qui nous amenaient maintenant au gouffre, aussi bien l'effondrement économique que cette explosion nucléaire qui a eu lieu hier à Beyrouth.
Qui a été vécue telle quelle. Et vous sentez émerger, Ishaq Diwan, une nouvelle classe politique, une nouvelle génération politique qui pourrait incarner au Liban ce nouveau pacte laïque ?
Il faut espérer. Il y a beaucoup de mouvements dans les rues, de jeunes qui s'organisent, qui commencent à former des groupes, qui commencent à se fédérer, qui commencent à discuter de programmes politiques et de transition. C'est là que ça peut se passer. Ce n'est que de l'intérieur que le changement politique peut se faire. C'est vrai que c'est un régime très enraciné dans la société et très difficile à déplacer. Mais le gouffre dans lequel on est une occasion historique pour le faire.
Un très grand mal pour peut-être un futur bien. Il y a également les difficultés et peut-être que le système politique nouveau qui émergerait aurait du mal à s'y adapter, les données de la crise économique, tout simplement, Frédéric Cancel, qui sont là. Le Liban est aujourd'hui ruiné.
Oui, le Liban est ruiné et là encore, il y a un paradoxe stupéfiant. La jeunesse libanaise est dotée d'un niveau de formation grâce à un système socioculturel extrêmement et socioéducatif extrêmement performant, cette jeunesse est l'une des mieux formées de l'ensemble du Moyen-Orient. Et précisément parce que cette classe politique en dessous de tout, je ne dis pas que chacun de ses membres est en dessous de tout, mais sur la classe politique de manière générale, et cet État dont on parle depuis tout à l'heure, est incapable de fournir du travail à ces jeunes gens très bien formés, eh bien, il y a une hémorragie des cerveaux, une hémorragie démographique très importante depuis au moins les années 70. Ce qui fait qu'en Australie, au Canada, en France, ailleurs, vous avez de très fortes minorités, enfin, vous avez des diasporas en quelque sorte libanaises qui restent profondément attachées sur le plan affectif au Liban, mais qui travaillent et par conséquent qui apportent en quelque sorte aux autres pays,
mais pas suffisamment au Liban. Je vous
et
propose.
Pardonnez-moi juste.
Allez-y.
Très rapidement. Quant à la ruine, vous savez, le Liban a été qualifié de Suisse du Moyen-Orient dans les années 60-70. Pourquoi ? Parce que le système bancaire tenait debout. Mais le problème, c'est que le système bancaire a tenu lieu d'économie de manière générale. Et aujourd'hui, qu'il est, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, qu'il est très largement effondré, eh bien on s'aperçoit que le Liban, en quelque sorte, ne produisait ou ne produit quasiment rien et qu'il s'agissait d'une espèce de rente qui n'a évidemment pas suffi à enrichir le pays.
Alors, nous avons justement, messieurs, une question qui nous parvient du département des Yvelines. C'est Alain qui nous appelle. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, bonsoir les grandes voix.
Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce soir. Nous vous écoutons, Alain.
Et voilà, moi, je voulais précisément évoquer le sujet de la diaspora, parce que, sauf erreur, il doit y avoir plus de deux fois plus de Libanais vivant hors Liban qu'à l'intérieur des frontières. Or, ces gens, moi j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai connu beaucoup, sont très attachés à leur pays, reviennent en vacances, envoient de l'argent. Ne pourrait-on imaginer que, face à une situation aussi grave, aussi difficile, certains d'entre eux puissent jouer un rôle dans la recomposition du paysage libanais. Je pense à des personnalités fortes, à la Carlos Ghosn et d'autres peut-être.
Alors la Carlos Ghosn, vous ne prenez peut-être pas la meilleure, mais pour vous donner un exemple, le patron du principal transporteur par mer, la CMA, l'ex-CMA-CGM, Rodolphe Saadé, libanais, installé à Marseille, a mis à disposition des avions privés dès hier soir pour assurer un acheminement. Isaac Diwan, la diaspora venant en aide au Liban, j'allais dire à court terme sur l'humanitaire, c'est un geste quasiment naturel. À plus long terme, comme l'expliquait Frédéric Ancel, c'est peut-être plus compliqué.
Ah, la diaspora se mobilise depuis avant-hier pour essayer d'aider, pour aider sur le terrain. Mais je dirais même à plus long terme, c'est un élément essentiel de la reconstruction du Liban. Il faut bien se rendre compte que tout est à reconstruire, tous les piliers du pays se sont écroulés. La classe moyenne est détruite, le secteur privé est en faillite, les banques sont en faillite, l'État aussi, la stabilité monétaire a disparu. Les relations régionales et internationales se sont énormément dégradées. L'éducation, dont parlait mon collègue, la santé, sont en très mauvaise santé, en déséquilibre. L'État a des dettes énormes envers ses institutions. Heureusement que la France va financer pendant un an des écoles francophones pour permettre aux étudiants, une centaine de milliers d'étudiants, de continuer à s'éduquer. La pauvreté, on parle de 50% de la population, 40% de chômage. Tous les piliers du Liban se sont écroulés, il y a énormément à reconstruire, ça passe par un changement politique au départ, et cette reconstruction ne pourra pas se faire sans une aide, sans une implication très profonde de sa diaspora. Il faut reconstruire une économie non pas nationale, mais quasiment multinationale, qui serve et qui est servie par la diaspora. C'est ça la force du Liban, et c'est ça qui lui permettra de se remettre sur pied.
Frédéric Ancel, l'ampleur du chantier qu'évoquait Isaac Diwan à l'instant donne des frayeurs. Est-ce qu'on peut risquer au Liban un très fort exil comme celui qui avait eu lieu à la fin de la guerre civile et qui a eu lieu aussi peut-être après 2006 lorsque le Hezbollah, après ce qu'il qualifiait de victoire contre Israël, a quasiment pris les rênes du pays ?
Oui, la réponse est oui. Oui, c'est d'ailleurs ce que je crains. Enfin, je le crains, mon Dieu, je respecte infiniment la volonté de beaucoup de Libanais, jeunes et moins jeunes, de quitter le pays. Et je pense que ça va ne faire que ce qui vient de se produire, cette tragédie, ne va qu'accentuer cette volonté. Il y a d'abord des facilités dans beaucoup de pays d'Occident par la puissance de cette et par la puissance également quantitative de cette diaspora. Il y a de nombreuses facilités offertes aux Libanais pour quitter le pays et je pense que beaucoup effectivement risquent de faire ce choix. Sur la diaspora, ce qui a été dit est extrêmement juste. Je prendrai deux éléments comparatifs tout à fait passionnants. D'abord, la diaspora arménienne vis-à-vis de la République d'Arménie qui elle aussi dans le Caucase s'est trouvée et se trouve confrontée à des problèmes géopolitiques et économiques extrêmement graves. La diaspora juive, alors avant et au début de l'État d'Israël notamment, prenez aujourd'hui en Afrique le cas de la diaspora rwandaise, on a à chaque fois quelque chose d'extrêmement, d'affectivement très important, mais qui doit se traduire par des gestes économiques tout à fait concrets. Cela dit, si je peux me permettre...
Allez-y, ce sera le mot de la fin pour vous, Frédéric Ancel.
Tel ou tel monsieur, tel ou tel madame appartenant à la diaspora libanaise pourra bien offrir une partie de son portefeuille ou de ses biens en faveur de mouvements caritatifs libanais. Ça ne suffira pas à modifier fondamentalement les piliers de cette économie en ruine.
On l'a compris, effectivement, et merci messieurs d'avoir été aussi pédagogues. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat, Gérard et Alain, que nous avons pris à l'antenne. Les excuses à ceux que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne. En tout cas, Issack Diwan, professeur à la chaire Monde Arabe à Paris Sciences et Lettres, la faculté, merci pour vos réponses. Et à Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Et vous étiez, on l'a compris, tous les deux de grands spécialistes du Proche-Orient. Voilà pour les grandes voix de ce soir et nul doute qu'on reparlera du Liban sur Europe 1 dans les prochaines heures et prochains jours.
Europe 1.
18h48, votre grand journal du soir revient sur Europe 1 avec vous François Claus et les reporters d'Europe 1 pour la rétro d'actu.
Oui, un petit coup d'œil dans le rétro pour revivre toutes ces émotions très fortes des deux mois de confinement. Et nous allons partir là dans une des régions les plus martyrs, c'était le nord de l'Italie, le premier foyer épidémique en France. Nous y serons avec Romain Nocquet dans un instant.
Europe 1.
C'est dangereux quand même.
Je dois voir ça.
Aujourd'hui, il n'y a aucune indication pour la population française à acheter des masques.
Nous sommes en guerre.
Tous les patients qui sont transférés sont sous respirateur.
Il faut être efficace.
Europe 1, rétro d'actu.
We will succeed.
Ça se propage trop vite.
Elle se dresse face au Covid-19 avec cette réplique. Vous n'entrerez pas.
Il montre la lueur au bout du tunnel.
Revivre tout au long de l'été en 15 épisodes cette mosaïque d'émotions, de douleurs, de moments de grâce aussi que nous avons tous partagé pendant ces deux mois hors normes de confinement. Les revivre avec les mots, les regards et les micros des reporters d'Europe 1, c'est ce que nous vous proposons tous les soirs. Bonjour Romain Nocquet.
Bonjour François, bonjour à tous.
Nous sommes avec vous le 23 février, tout début de la pandémie. En Italie, où le gouvernement annonce la mise en quarantaine de 11 villages du Nord, dans la région de la Lombardie, à cause de l'épidémie. Dans ce premier foyer de contamination, il y a une commune, elle s'appelle Codogno.
Oui, Codogno, c'est l'épicentre du virus en Italie. C'est là, en fait, où vivait le tout premier malade du pays. Et c'est aussi dans cette ville que j'ai rencontré Sarah.
We're here alone,
on est là, seul, sans masque, sans protection. Il n'y a rien, rien du tout. Moi et ma famille, on a passé la semaine chez nous. Tout. Respirer, rester près des autres. On a peur. On a peur de mourir parce qu'on est seul. On ne sait pas quoi faire. Les autorités nous ont dit, on est là, on peut vous aider. Mais en fait, on n'a vu personne.
On sent l'émotion, la peur dans ce témoignage. On rappelle que nous sommes le 23 février, la peur de mourir, l'absence d'aide. Sarah, c'est une jeune femme de 21 ans.
Oui, tout à fait. Sarah, je l'ai rencontrée en fait dans une très longue file d'attente devant l'une des pharmacies de Codogno. Et on l'a entendue, elle est vraiment paniquée, en pleurs, parce qu'à ce moment-là, dans Codogno, il y a une obsession, c'est trouver des masques. Le problème, c'est que toutes les pharmacies à ce moment-là sont en rupture de stock. Et il faut vraiment imaginer cette atmosphère pesante où les gens se croisent, mais vraiment sans un regard, sans un geste. Et même avec mon masque, les gens s'écartaient sur mon passage avec une suspicion, une méfiance, surtout qu'ils voyaient bien que je n'étais pas de Codogno. Ils se demandaient surtout comment j'ai pu arriver jusque-là, alors que la zone est censée être en quarantaine. En tout cas, la ville est vraiment coupée du monde à ce moment-là. Les trains ne s'arrêtent plus, il n'y a plus de bus, plus d'écoles, les commerces sont fermés. Les magasins alimentaires, c'était les seuls à pouvoir rester ouverts et encore seulement quelques heures sont pris d'assaut. Je n'ai même pas pu, pour tout vous dire, trouver un simple sandwich, une bouteille d'eau. C'était la première fois de ma vie que je voyais des dizaines de personnes attendre devant une simple boulangerie. Et c'est là que j'ai rencontré Eleonora.
J'ai acheté du pain. C'est vraiment irréel. On se croirait en période de guerre. Ce virus nous a surpris. Ça a surpris tous les Italiens. Parce que nous pensions que c'était loin de nous, en Chine. Mais on ne s'attendait pas à ça ici. Espérons que ça soit seulement l'histoire de quelques semaines, pas plus. Mais je n'en sais rien du tout.
Quelques semaines, on l'entend, les habitants ne réalisent à ce moment-là absolument pas l'ampleur de l'épidémie.
Oui, exactement. Surtout qu'il faut dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment très peu d'informations en ville. On entend juste le nombre de morts en fait, qui grimpe jour après jour. Pour ma part, j'ai arpenté les rues de Codogno pendant 3 jours. Et vraiment, même en ouvrant l'œil, je n'ai pas vu une affiche, je n'ai pas croisé un représentant des autorités pour renseigner la population. Alors forcément, les habitants à ce moment-là cherchent des infos sur les réseaux sociaux. Et là, on trouve beaucoup de fake news, notamment sur l'ampleur de l'épidémie, avec des chiffres vraiment farfelus. En tout cas, les habitants à ce moment-là sont vraiment désemparés, livrés à eux-mêmes. C'est le cas d'Anna Maria, une professeure de français.
Comme vous voyez, il y a du monde qui marche sans la masque ou sans des protections. Et ici, c'est un peu comme ça, à l'italienne.
C'est-à-dire, c'est quoi l'italienne ?
Ah ouais, c'est quoi l'italienne ? C'est que si tu écoutes la télévision, tu crois que tout est sous contrôle, mais tandis que rien n'est sous contrôle. Mais c'est une épreuve pour l'Italie, hein. On doit se réveiller un peu.
Alors ça nous renvoie effectivement à cette période un peu de latence, d'absence de décision politique. On rappelle que nous sommes fin février. Les autorités italiennes, finalement, ont mis du temps à réagir.
Oui, exactement, parce qu'officiellement, Codogno, comme plusieurs autres villages du secteur, sont en quarantaine. Mais pour beaucoup, cette quarantaine, elle s'est mise en place beaucoup trop tardivement. Je me rappelle encore d'une image par terre. Dans Codogno, il y avait encore des cotillons, beaucoup de cotillons, parce que la semaine d'avant, il y avait eu un carnaval avec des milliers de personnes qui avaient fait le déplacement de toute la région. Et la preuve, un petit peu que le virus gagnait vraiment beaucoup de terrain, c'est que chaque jour, une dizaine de camions blancs du SAMU italien passaient à toute allure dans Codogno.
Et au regard de cette situation que vous rencontrez à ce moment-là, on comprend que les cas, le nombre de cas vont... ça va grimper en flèche.
Oui, exactement. Et pour m'en rendre compte, je suis donc sortie de la zone de quarantaine sans trop de difficultés, je dois vous l'avouer. Et je suis allée à l'hôpital de Lodi. C'était le seul encore ouvert dans le secteur. Et là, vraiment, pour la journée que j'ai passée sur place, les sirènes des ambulances résonnaient vraiment en permanence. J'ai vu des médecins en combinaison accueillir des patients dans un sas hermétique. Dans la salle d'attente, il y avait des bâches qui avaient été, on voyait, installées vraiment à la va-vite pour traiter le plus de patients possible. Et j'ai le souvenir de ce panneau à l'entrée des urgences, vraiment n'entrer qu'en cas d'extrême nécessité. C'était pour vous dire le danger qu'il y avait à ce moment-là. Et pour cause, en fait, je m'en suis très vite rendu compte de cet avertissement, parce que dans l'hôpital, en fait, j'ai croisé des habitants qui avaient réussi aussi à quitter la zone rouge pour accompagner des personnes malades. C'était le cas de Michelangelo qui venait tout droit de Codogno.
On n'a pas d'alternative car on n'a pas d'autre hôpital ni de centre de secours. On ne pouvait venir qu'ici. Je me rends compte que c'est dangereux car je peux être contagieux, mais on ne sait pas. Et quand je dis aux gens que je viens d'un village dans la zone rouge, ils s'écartent. Ils ont peur de moi, ils ont peur de nous.
Alors on l'entend, hein, c'est une zone dite de quarantaine, mais extrêmement perméable. Et c'est ce que vous allez constater à l'aéroport en entrant en France, Romane.
Oui, exactement. Je suis passée par l'aéroport de Milan. Et là, une fois de plus, hein, pourtant j'ai bien regardé, pas de panneau particulier, pas d'affiche. Même avec mon masque, à l'époque, pour tout vous dire, ça ne passait pas inaperçu hein, encore de porter un masque. Personne ne m'a posé de questions. Et parmi les passagers, des gens partaient ensuite vers le Brésil, les États-Unis, l'Angleterre, sans aucun problème. Dans l'avion, pareil, le personnel n'a toujours pas de masque. Et arrivé en France, à Paris, les seuls dépliants à ce moment-là concernaient la situation en Chine, rien sur l'Italie. Pour tout vous dire, je n'étais pas la seule à être surprise. Bruno, un passager français, l'était aussi.
Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien à l'arrivée. Et c'est même incompréhensible. Et peut-être que dans mon avion, il y aura des problèmes, ou pas, je ne sais pas. Sur la quantité de personnes que je vois là, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont des masques mais à l'aéroport, mais le reste n'a pas de masque. Si on n'est pas un peu conscient, on peut transporter le virus n'importe où.
Pour la petite anecdote, François, moi, à ma sortie de l'avion, donc après 4 jours passés à Codogno, c'est moi-même qui suis allée me signaler au poste médical de l'aéroport. Et là, on m'a répondu que pour la quarantaine, c'est moi qui décidais.
Oui, on voit comment cette nonchalance générale, à la fois dans la prise de conscience des citoyens, mais aussi dans les retards sur les décisions politiques, ont pesé très lourd pour la suite du développement de la pandémie. Nous sommes 5 mois plus tard aujourd'hui, Roman. Vous avez repassé les coups de téléphone du côté de Codogno et de la Lombardie. Commençons aujourd'hui, les gens, avec 5 mois de recul.
Il faut dire qu'aujourd'hui, Codogno, en fait, c'est l'une des villes les plus connues d'Italie. Un habitant que j'ai rappelé, justement, me parlait un petit peu de cette stigmatisation qu'il y a maintenant quand on dit qu'on vient de Codogno. Lui, il voulait réserver quelques vacances dans le pays et il m'expliquait qu'il avait eu du mal à réserver une chambre d'hôtel quand il expliquait aux autres professionnels de l'Italie qui venaient de ce coin-là. Alors désormais, à Codogno, ça va mieux. Il n'y a plus de nouvelles contaminations. Les gestes barrières sont plutôt bien respectés. Par exemple, il est interdit d'acheter de l'alcool après 21h pour éviter les rassemblements de jeunes. Mais comme chez nous, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Par exemple, un sujet qui va nous parler sur la rentrée des classes ou encore sur tous ces commerces qui sont restés fermés et qui ont fait faillite. Et cet habitant me le confiait. On sait qu'on doit s'attendre au pire en septembre-octobre. Il m'expliquait qu'il avait peur, bien sûr, et surtout à Codogno, où on sait que ce virus n'est pas une blague.
Merci beaucoup, Roman Hockey, pour cette plongée du côté de Codogno et de la Lombardie. Nous étions le 23 février dernier.
Europe 1.